En fait, il existe, entre les doctrines politiques et philosophiques, de profondes divergences sur la conception de l'État. Il y a des penseurs étatistes qui souhaitent le renforcement de l'État et d'autres qui sont des anti-étatistes, qui souhaitent la disparition de l'État. Grand 4 États et liberté 1 l'État, garant des libertés Spinoza, Hegel, Rousseau, Hobbes et John Locke, ont une vision positive de l'État. Ils pensent que l'État garantit les libertés. Rousseau, dans son contrat social, soutient que l'État ne menace pas les libertés. À son avis, il n'y a point de liberté sans loi. En d'autres termes, aussi contraignantes qu'elles puissent être, les lois garantissent néanmoins la liberté des hommes. Pour Hobbes, le pouvoir de l'État doit être absolu, faute de quoi les hommes tomberaient de nouveau dans la violence. Et c'est cette absoluité qui garantit, selon lui, les libertés individuelles. John Locke affirme, pour sa part, que même si l'État est un instrument qui assure la liberté ainsi que la sécurité des biens et des personnes, son pouvoir doit être quand même limité. Il ne doit pas empiéter sur la propriété privée des hommes. John Locke est un des penseurs de la libéralisation. Il voudrait que l'État intervienne le moins dans les affaires des hommes. C'est ce qu'on pourrait résumer en cette expression « moins d'État et le mieux d'État ». De l'avis de Spinoza, l'État est la condition de réalisation de la liberté. Hegel, quant à lui, sanctifie l'État. Il a tendance à le diviniser car il pense que c'est dans l'État que l'être humain peut se réaliser. N'est-il pas paradoxal que l'État, une invention des plus humaines, soit souvent décriée et accusée d'aller à l'encontre des intérêts des individus? Pour Hegel, tout au contraire, tout ce que l'homme est, il le doit à l'État. C'est là que réside son être. Toute sa valeur, toute sa réalité spirituelle, il ne les a que par l'État. Si tous ces penseurs ont une vision positive de l'État, d'autres ont, au contraire, adressé à l'État de vives critiques. Ce sont les anti-étatistes. De l'État, une menace pour la liberté. L'État a été institué, en principe, pour jouer le rôle d'arbitre. Mais en réalité, l'État n'est jamais neutre. Il est toujours au service de la classe dominante. Par exemple, dans les sociétés capitalistes, l'État est au service de la bourgeoisie. Les bourgeois en ont fait un instrument de domination pour préserver leurs intérêts et pour exploiter la classe ouvrière. C'est pour cette raison que Marx et Engels ont prôné la disparition de l'État en remplacement de la société communiste qui est une société sans classe. Dans l'idéologie allemande, Marx affirme que l'État est un instrument d'oppression et d'exploitation de l'homme par l'homme. À ses yeux, l'État et l'esclavage sont inséparables. C'est pourquoi il estime que seul le dépérissement de l'État pourra mettre fin à la misère de la classe prolétarienne. Le point de vue de Marx est partagé par les anarchistes Proudhon et Bakounine, qui considèrent que l'État, c'est l'ennemi. Dans les Confessions d'un révolutionnaire, Proudhon dit que le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est de la servitude. Même le gouvernement démocratique, pris pour la meilleure forme des régimes politiques, n'est pas épargné. Les anarchistes aspirent à la disparition de l'État, donc à toute forme de contrainte, pour l'émergence d'une liberté totale de l'individu. Nietzsche s'est également prononcé sur l'État en le critiquant sévèrement. Dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathoustra », il compare l'État à un monstre froid et un menteur qui prétend représenter le peuple. Il dit à ce propos « État ». Qu'est-ce cela donc? Je vais vous parler de la mort des peuples. L'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement et son mensonge consiste à dire « Moi, l'État, je suis le peuple ». C'est un mensonge. Dans le même ordre d'idées, Nietzsche ajoute que quoi que l'État puisse avoir, il l'a volé. Et quoi qu'il dise, il ment. Et il ment dans toutes les langues. L'État a fait l'objet de diverses interprétations opposant ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais une position intermédiaire semble s'installer avec Paul Valéry, qui dit que « si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons ». Que choisir face à ce dilemme? La toute-puissance de l'État ou sa faiblesse? Paul Valéry invite à un fonctionnement équilibré de l'État, de telle sorte que les libertés soient garanties sans qu'elles nuisent au pouvoir de Optapt. Grand 5 l'État et la mondialisation. la mondialisation pourrait être définie comme l'interdépendance des économies du monde, grâce notamment à la chute des barrières douanières et à la libéralisation, qui ont levé la plupart des entraves à la circulation des marchandises et des capitaux. La mondialisation signifie aussi l'intégration croissante des différentes parties du monde dans une économie mondiale, un marché unique. Elle traduit l'ouverture des économies, l'augmentation des échanges à l'échelle de la planète et la circulation croissante de l'information. Par extension, certains ont qualifié de mondialisation la diffusion de modèles culturels dans le monde. La mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. Avant la Première Guerre mondiale, le monde a déjà connu des échanges internationaux, des investissements étrangers et de mouvements de population. Si ce phénomène connaît aujourd'hui une grande ampleur, c'est parce qu'il y a l'essor des transports aériens et du développement des technologies de l'information et de la communication. Un événement qui se produit en un lieu de la planète est immédiatement connu dans le monde entier. L'Internet supprime les frontières douanières, économiques et culturelles entre les nations. Mais la mondialisation engendre, dans le même temps, un risque de remise en cause de la souveraineté des États, surtout ceux africains. Exemple, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui compte 141 membres, est une organisation qui promeut le libre-échange et fixe les règles du commerce international. Dans ce domaine, les enjeux des négociations de tarifs douaniers à l'OMC sont de taille, car les pays du tiers-monde dénoncent souvent la mise en place de tarifs qui leur sont défavorables. Ce sont les Européens qui négocient tout, ce qui signifie que les États africains subissent le diktat européen et perdent, du coup, leur souveraineté. En effet, l'OMC élabore des politiques qui s'accordent mal avec les politiques économiques et sociales des États, ce qui remet en cause la souveraineté de plusieurs États, surtout africains. Par définition, trois éléments sont constitutifs de l'État : la population, le territoire et l'autorité politique. Or, cette définition semble être remise en cause par la définition même de la mondialisation. Un État souverain est un territoire politiquement indépendant, possédant ses propres gouvernements, administrations, lois et armées. Ainsi, il s'agit d'un État qui n'est soumis à aucune puissance extérieure ou intérieure. Mais avec le phénomène de la mondialisation, on peut se demander en quoi l'État est-il encore souverain. Visiblement, la première victime de la mondialisation, c'est l'État-nation, car la souveraineté perd sa valeur. Ainsi, durant la décennie 1990-2000, les institutions de Bretton Woods, bras séculier de la mondialisation conquérante, ont imposé des programmes d'ajustement structurel à des dizaines de pays. Ces institutions ont considérablement réduit la possibilité pour les États de définir des stratégies sur des bases strictement nationales. L'hégémonie des États-Unis menace la souveraineté des États. Les États-Unis d'Amérique s'arrogent le droit d'intervenir même militairement et selon les prétextes qu'ils auront eux-mêmes choisis. Mais il ne faudrait pas croire que la mondialisation est un phénomène tout à fait négatif. Même si elle menace la souveraineté des pays, elle ouvre toutes grandes les portes de la prospérité, de la sécurité et du bien-être et de l'entraide. Le fait que les frontières soient plus perméables ne signifie pas qu'il n'y a aucun contrôle. Par exemple, la France contrôle les importations de semences d'OGM, organismes génétiquement modifiés, dans le cadre de l'Union européenne. Aussi, à cause de la vache folle, le commerce international de chair de vache était rigoureusement contrôlé dans certains pays comme le Sénégal et formellement interdit dans d'autres. Conclusion. L'État marque le passage de l'état de nature à l'état de société. Même si l'État est considéré comme un appareil de violence et d'oppression, qu'il convient de supprimer selon les anti-étatistes, il n'en demeure pas moins qu'il garantit les libertés. Il fournit au peuple un cadre juridique qui lui permet de vivre et d'agir dans l'ordre et la sécurité.